Comment cultiver la curiosité des enfants ?
Être et savoir, Louise Touret.
La curiosité est un vice qui a été stigmatisé tour à tour par le christianisme, par la philosophie et même par une certaine conception de la science. Curiosité, futilité. Le mot pourtant me plaît. Il évoque le souci, il évoque le soin qu'on prend de ce qui existe et pourrait exister. Un sens aiguisé du réel, mais qui ne s'immobilise jamais devant lui. Une promptitude à trouver étrange et singulier ce qui nous entoure. Un certain acharnement à nous défaire de nos familiarités et à regarder autrement les mêmes choses. Une ardeur à saisir ce qui se passe. Une désinvolture à l'égard des hiérarchies traditionnelles entre l'important et l'essentiel. Je rêve d'un âge nouveau de la curiosité. Ces quelques mots ne sont pas de moi, ils sont extraits d'un entretien de Michel Foucault, entretien qui date de 1980. On va parler de la curiosité aujourd'hui. Cette curiosité, même bien aiguisée, est-elle un bon guide pour apprendre ? Ne fait-elle pas courir le risque du papillonnage, de la superficialité, de la panique des désirs ? Et si l'enfant est naturellement curieux, comment peut-il le rester ? Comment cultiver la curiosité ? Comment maintenir sa flamme chez tous les enfants, en classe et dans leur vie ? Et même, comment rester curieux à tous les âges ? Trois auteurs autour de ce sujet ce matin, Catherine Lécuyer, Denis Kambouchner et Jean-Pierre Martin, à qui j'ai emprunté la citation de Michel Foucault par laquelle j'ai commencé cette émission. Et nous demanderons à ces invités ce qu'il en est à leurs yeux de la curiosité à l'heure du numérique. Le temps passé sur les internets augmente-t-il ou bride-t-il notre curiosité ? Et en fin d'émission, la leçon de choses avec Sarah Ouramoun, boxeuse multimédaillée. Souvenez-vous, elle avait décroché l'argent à Rio. Désormais en charge de la mixité pour le comité olympique, elle se confie cette semaine au micro de Sophie Bobert sur la manière dont la boxe lui a permis de surmonter ses difficultés familiales et scolaires. Elle parle même de boxe éducative. Je suis sûre que mes trois invités sont bien curieux de savoir ce que c'est que la boxe éducative, mais il faudra attendre la fin de l'émission. Bonjour Jean-Pierre Martin.
Bonjour.
Vous êtes romancier et essayiste, vous êtes auteur notamment de ce livre pour lequel je vous invite, La curiosité, une raison de vivre. Il vient de paraître chez Autrement et ce livre est lauréat de la bourse Cioran 2019. Vous nous expliquerez en quoi hein, c'est carrément une raison de vivre et pas seulement un motif pour apprendre. Avec nous également Catherine Lécuyer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences de l'éducation et psychologie conférencière et donc vous venez de publier « Cultiver l'émerveillement » et il y a un petit sous-titre « Et la curiosité naturelle de nos enfants ». C'est publié chez Erol. Denis Kambouchner, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et historien de la philosophie et vous avez publié quelque chose dans la tête. Nous avons perdu la culture de la mémoire, avons-nous gagné celle du jugement ? Voilà, c'est la question qui est sur la couverture de ce livre publié chez Flammarion. Je vais vous demander de vous soumettre à un petit exercice. Définissez-moi ce que c'est que la curiosité à vos yeux, Jean-Pierre Martin.
Bon, la curiosité, à mes yeux, c'est bien autre chose que ce qu'on appelle d'ordinaire la curiosité. D'abord, c'est évidemment pas un vilain défaut, mais surtout, c'est une attention au monde qui nous entoure, une attention à tout ce qui est inconnu, un élan, une vitalité, d'où l'expression « une raison de vivre », quelque chose qui nous donne une énergie, un enthousiasme, lorsque l'émerveillement nous fait dire « ouah », la curiosité nous fait prolonger ce « ouah », nous entraîne vers la nouveauté, non sans quelques écueils, non sans quelques pathologies possibles chez les encyclopédistes fous, chez Bouvard et Pécuchet, etc. Mais il y a tout de même dans cette histoire une vitalité que le bourgeois de Chavignol, pour reprendre l'exemple de Flaubert, et que le bourgeois de Chavignol n'a pas. hein, chez Bouvard et Pécuchet, qui sont considérés comme des imbéciles, eh bien, il y a tout de même cet élan formidable qui fait qu'ils vont d'objet en objet. Alors, on ne veut pas être tout à fait des Bouvard et Pécuchet, mais on veut, comme eux, retourner à une certaine naïveté, une certaine fraîcheur, une candeur enfantine. Autant vous dire que pour moi, la curiosité, c'est aussi l'esprit d'enfance. Et c'est très proche de l'esprit critique et de la liberté de penser.
L'enfance, parce que dites-vous, c'est là qu'on peut trouver encore un sujet relativement vierge, les animaux, le soleil et la pluie, la neige, l'arc-en-ciel et les premiers mots. L'enfance, en principe, si elle n'est pas abîmée, est tout entière émerveillement, expérimentation. Et c'est là où votre livre, et j'ajoute que ce chapitre sur l'enfance est particulièrement merveilleux, intéressant, et évidemment, j'y ai été très attentive. Ce livre rejoint un ouvrage qui est tout à fait différent, celui de Catherine Lécuyer, un ouvrage qui a déjà rencontré énormément de lecteurs. En tout cas, vous, vous rencontrez beaucoup de lecteurs et beaucoup de monde à travers vos conférences. Vous parlez d'éducation et vous véhiculez, et vous n'êtes pas la seule à le faire, une vision de l'enfance où, pour s'occuper des enfants, il faudrait respecter leurs besoins naturels. On peut discuter de ce que ça veut dire naturel, mais et surtout respecter leur curiosité.
En fait, l'émerveillement, c'est le désir d'apprendre que les êtres humains ont, comme disait Aristote, par nature. Donc, c'est pas quelque chose qu'on inculque ou qu'on stimule chez un enfant. Et c'est aussi ne rien tenir pour acquis. Donc, c'est voir quelque chose. Pas juste ce qu'on ne connaît pas, mais aussi ce qu'on a déjà vu, ce qu'on connaît, comme si c'était pour la première fois ou comme si c'était pour la dernière fois. Donc, c'est une ouverture active face à la réalité telle qu'elle est, donc sans filtre, sans préjugé.
Et cette curiosité, aujourd'hui, elle serait malmenée?
En fait, un des ennemis, je pense, de la curiosité chez les enfants, là, parce que mon ouvrage est surtout par rapport à l'enfant, c'est pas trop général, là, mais c'est la surstimulation. Donc, je parle beaucoup de la surstimulation numérique, la surstimulation aussi à travers de la surconsommation. Donc, quand une personne ou un enfant a tout ce qu'il veut avant même de le désirer, ce qu'on fait, c'est que on ne laisse pas l'enfant désirer. Or, l'émerveillement, c'est le désir de connaître. Non? Et l'enfant, les sens saturés. C'est ça. Je pense que un enfant qui pense que tout lui est dû. Hein? Donc, c'est tout à fait le contraire là, de l'émerveillement. Ce qu'on a, c'est un cynisme.
Et vous parlez aussi de surstimulation éducative.
Oui, ben en fait la surstimulation, bon, quand on parle du préscolaire, là, on est rendu maintenant avec des devoirs qu'on donne aux enfants de 4-5 ans, là, au préscolaire.
Alors la maternelle, en France.
À la maternelle, oui, pardon. aussi les activités extrascolaires et surtout maintenant on parle du numérique, là. Donc les enfants, le fameux mythe du natif numérique ou natif digital, je sais pas en France comment vous l'appelez.
On dit souvent digital native.
Ouais, c'est digital native.
Très français.
Donc l'idée que ces enfants-là qui sont nés à l'ère digitale, donc depuis 1984, ont une facilité pour apprendre à travers des nouvelles technologies. Donc ça, c'est un mythe. Quand on regarde la littérature académique sur la question, on se rend compte que la multitâche, la multitasking, comme vous dites en France, bon, c'est pas quelque chose qui est possible si on réalise deux activités qui requièrent une réflexion. Donc on les réalise, on oscille entre une activité et l'autre, là, on les fait pas en même temps.
Il faut un peu de concentration, et là c'est Denis Kambouchner qui va peut-être vous rejoindre, sur aussi la nécessaire rigueur qu'il faut avoir dans l'approche des savoirs. Et ce que je me suis demandé en vous lisant, Denis Kambouchner, c'est si la curiosité pour vous c'était une qualité, ou si éventuellement elle pouvait aussi, parfois par excès de papillonnage, par désir qui pourrait se bousculer, et ça peut arriver aussi à l'endroit du savoir, nous gêner dans l'acquisition rigoureuse de savoir ou de la culture.
Oui, il y a toujours une possibilité de dispersion. De l'attention, de l'intérêt à tout âge et dans toutes circonstances. Est-ce que c'est un grand problème? C'est un problème que nous pose la facilité de la navigation sur Internet, certainement. On connaît les effets négatifs. Je rejoins Catherine Lécuyer sur ce point et beaucoup d'ailleurs d'experts. Les effets négatifs de du surfing sur la capacité de concentration. Maintenant, la curiosité, c'est une bonne chose. Je crois que le procès de la curiosité est derrière nous. Il a été longtemps lié à des motifs religieux. Être curieux des choses, c'était être curieux, soit des choses défendues, soit des choses qu'on ne pourrait jamais connaître, soit des choses qui n'en valent pas la peine, les frivolités, effectivement, fascination nugaticitatis, dit l'écriture. Donc, dans cette affaire-là, avec beaucoup de discussions, notamment dans les siècles classiques, du 16e au 18e siècle, malgré tout, les Lumières l'ont emporté. Donc, nous n'avons pas de problème majeur avec la curiosité, comme naturellement, on peut être curieux de choses dont il n'y aurait pas véritablement à s'occuper, mais nous n'avons pas de problème avec ça. In the Garden of Eden, a long time ago, there was born a story, I'm sure you all know. I'm sure you remember and know you believe the story of Adam and Eve. In the Garden of Eden, where life began, yes, the very beginning of woman and man. I'm sure you remember and know you believe the story of Adam and Eve. Within the garden walls they both fell in love, sheltered by the guiding hand of the one above. Life was filled with happiness until one day arose a very great temptation, but you know how it goes. In the Garden of Eden, a long time ago, there was born a story, I'm sure you all know. I'm sure you remember and know you believe the story of Adam and Eve. Well, there within the garden walls they both fell in love, sheltered by the guiding hand of the one above. Life was filled with happiness until one day arose a very great temptation, but you know how it goes. In the Garden of Eden, a long time ago, there was born a story, I'm sure you all know.
Alors vous avez parlé de l'homme qui ne doit pas être trop curieux. En fait, il y a un personnage qui ne doit pas être trop curieux et qui revient dans bien des histoires. C'est une petite fille. Là, on a peut-être pris un des derniers personnages en date qu'on a beaucoup puni pour sa curiosité. C'est Sophie.
Oh, mais quelle horreur! Oh, c'est épouvantable! Oh, je veux savoir quel est le sang-cœur qui a fait ce carnage avec des petits poissons rouges que j'aimais tant. Ah, Rosalie, je parie que c'est Sophie qui a fait ça. Oh, madame, elle n'est pas capable d'avoir fait une chose si méchante. Bien tant mieux, car je l'aurais punie avec sévérité. Et je veux connaître les coupables, vous m'entendez? Allez, poussez-vous.
C'est moi qui les ai tués.
Mais quelle folie! Tu les aimais beaucoup trop pour les faire souffrir.
Je ne voulais pas les tuer, je voulais juste les saler. Puis, je ne savais pas que les couper en morceaux les faisaient souffrir, puisqu'ils ne criaient pas.
Si j'avais appris par hasard ce que tu viens de me raconter, je t'aurais puni sans pitié, avec sévérité. Mais le bon sentiment qui t'a fait avouer ta faute pour excuser Simon te vaudra ton pardon.
De la comtesse est servie.
Sophie est la pardonnée, mais dans les malheurs de Sophie, et même dans d'autres histoires de la comtesse de Ségur, elle est tout de même beaucoup punie. Sophie agit par sa folle curiosité du monde. Évidemment, vous en parlez dans l'ouvrage, Jean-Pierre Martin.
Oui, Sophie, comme beaucoup de personnages de conte, comme Boucle d'Or, comme...
Alice
qui suit le lapin, comme même Curious George, hein, qui s'égare afin de voir ailleurs, etc. Et il se trouve que, bon, l'incuriosité, en fait, est dictée par une sorte de convenance dans l'éducation, ce qui fait que lorsque Fénelon dit ceci, que la curiosité va au-devant de l'instruction, on peut se dire aussi que l'incuriosité va au-devant de l'instruction, que l'incuriosité est une sorte de, comment dire, de ver dans le fruit de la pédagogie. Et pour reprendre quelque chose que disait, qui était très juste, que disait Denis Grand-Bouchner, c'est vrai que le procès de la curiosité est une chose du passé, mais pas tout à fait sur un certain point.
Par exemple.
Mais je prends une précaution, c'est-à-dire que personnellement, j'envisage la curiosité non pas seulement sur le plan cognitif, comme une libido siendi, comme un désir d'apprendre, mais sur le plan existentiel. Curiosité de tout, de tout ce qui nous entoure, du monde, de tout inconnu, des autres, chacun est une énigme. Tout est une énigme, du cosmos au cajot-ponge, qui nous fait regarder le cajou différemment, de la Patagonie à la fourmi, etc. Tout est énigme. Bon. Et évidemment que selon les grands penseurs de l'enfance et de l'éducation, Fénelon, Rousseau, etc., pour eux, la curiosité est un capital originel, est une manne, est une, quelque chose qu'il faut cultiver précisément. Mais pour qu'on la cultive, il faut aussi se mettre au diapason d'une nouvelle ère de la curiosité, d'un nouvel âge qui n'est pas seulement l'âge numérique, qui est aussi l'âge de la curiosité, j'oserais dire, biographique, qui est une façon d'envisager la curiosité existentielle. La curiosité biographique est encore l'objet d'un procès, un procès peut-être finissant, mais tout de même, il y a une certaine méfiance à l'égard de l'intérêt que l'on porte à la vie des autres. C'est très exactement ce que dénonçait saint Augustin et à sa suite Montaigne, etc. Donc je crois que là, il y a un enjeu majeur qui concerne finalement la question de la question. C'est-à-dire, a-t-on le droit de poser des questions et jusqu'où et dans quelle mesure ? Voilà. Et moi, il me semble que, puisque nous parlons d'enfants et de pédagogie, que c'est vraiment intéressant de se dire qu'avec les enfants, eh bien, nous avons presque le devoir éthique de les encourager à poser toutes les questions qui les traversent. Parce que sinon, ils vont avoir des grands-pères qui ont reconnu la Shoah comme une certaine... Pourquoi on parle de ce silence autour de la Shoah ? Et on parle du fait que les anciens déportés ne voulaient pas parler. Mais est-ce que leurs enfants, leurs petits-enfants leur ont posé des questions ?
Et est-ce qu'ils arrivaient à y répondre ? Étaient-ils encouragés à poser ces questions ? On peut parler de ce questionnement pour des sujets très graves comme celui-là, ou pour des sujets qui concernent la famille. Finalement, cette curiosité de l'autre, est-ce que pour vous aussi, Catherine Écuyer, c'est quelque chose qui est parfois empêché par les adultes qui éduquent les enfants ?
Je pense que c'est important de faire la différence entre ce qui serait fascination et émerveillement. Pour moi, c'est très différent. Là. Je ne sais pas si vous serez d'accord, là, mais d'un côté, la fascination, c'est une attitude plutôt passive là, devant des stimuli fréquents et intermittents qui captent notre attention. Et quand un enfant est devant une attitude de fascination, mais le locus de contrôle, dont on parle souvent en psychologie, là, est externe. Donc, l'enfant n'a pas les rênes de la situation. L'enfant est à la remorque de ce qui se passe à l'extérieur. Dans le cas de l'émerveillement, mais le locus de contrôle est interne. Donc, il y a une responsabilité. Donc, c'est une ouverture active face à la réalité. Donc, je pense que c'est ce qui fait peut-être la différence là, entre une curiosité qui ne sait pas trop où elle va, non? Qui est pas, c'est pas mauvais non plus là, d'aller n'importe où puis de découvrir là, de façon découverte pure. Par contre, je pense que cette curiosité-là, dans un contexte scolaire, elle a beaucoup plus de sens lorsqu'une quête de sens. Donc, je pense que c'est en lien beaucoup avec la quête de sens. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser, là, mais je raconte beaucoup cette histoire-là aux parents. Une étude qui a été faite à l'Université de Stanford sur la multitâche technologique. Donc, ils comparaient deux groupes. Un groupe qui faisait multitâche technologique, plusieurs choses en même temps. Il y a un autre groupe où est-ce qu'on utilisait la technologie, mais d'une façon séquentielle, donc une chose à la fois. Et on s'est posé la question, est-ce que les gens qui font la multitâche technologique ont un sens ou une recherche, une quête de sens plus aiguë, non? Parce qu'ils ont un critère de recherche quand ils sont en contact avec plusieurs informations. Et la conclusion, pour faire l'histoire rapide, là, la conclusion du directeur de l'étude, Clifford Nass, c'est que les gens qui font de la multitâche technologique sont des amoureux de ce qui n'a pas de sens.
Et pour revenir à ma question, Faut-il répondre à toutes les questions des enfants?
Je pense qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Il y a plusieurs choses qui sont mystérieuses. Donc, on essaie là de se comporter comme ceux qui le savent tout, puis on sait pas tout. Les enfants ont une affinité tout spéciale avec le mystère, parce que le mystère, c'est une opportunité infinie de connaître. Et l'émerveillement, c'est un désir de connaître. Donc, c'est important des fois leur retourner la question. Et toi, qu'est-ce que tu en penses?
Mystère, émerveillement. Mais si on doit parler d'éducation, on doit parler d'école, alors je ne sais pas jusqu'à quel point ces mots-là peuvent rentrer dans la classe. En tout cas, depuis une dizaine, peut-être une quinzaine d'années, on accuse beaucoup l'école de tuer la curiosité des enfants. C'est la fameuse conférence de Ken Robinson, un pédagogue anglais. Elle a été vue par des millions et des millions de personnes. C'est extrêmement massif. Il parle de créativité, mais il parle aussi de la curiosité. Cette école où on n'a pas le temps de se demander pourquoi, on ne peut pas répondre aux enfants. Cette opposition entre, j'y reviens de Nikon Bouchner, entre la curiosité pure, enfantine, enfin, je ne sais pas si quelque chose peut être pur, en fait, hein, mais... On va reprendre des termes qui ont été employés. Et puis, les savoirs académiques, elle est souvent posée. Qui répondez-vous?
Oui, mon ami Benoît Peters citait une formule de Valérie que je suis pas sûr de citer exactement, mais qui est frappante. C'était quelque chose comme ça. 4 ans, l'âge des questions, et puis l'école vient. Voilà. Le problème, c'est signaler que le problème est ancien, avec l'effet... négatif, globalement négatif, qu'aurait l'éducation scolaire sur l'extraordinaire, effectivement, appétence des enfants et leur recherche s'agissant de tout ce qu'ils trouvent autour d'eux et au-delà. Le fait est que l'école, avec ce qu'elle impose de discipline, ne répond pas forcément de manière immédiate et naturelle aux interrogations et aux mouvements d'esprit des enfants, ça pose un problème d'ordre, de gestion de la collectivité enfantine, d'autant que les enfants vont toujours... leur questionnement rebondit et est quelquefois difficile lui-même à contenir. Donc l'école, traditionnellement, impose un certain ordre. Ça veut dire que la réponse à la question, si elle est effectivement demandée, elle attendra, elle peut attendre. Je crois surtout que tout dépend, et je crois que c'est signalé aussi bien par Catherine Lécuyer que par Jean-Pierre Martin, tout dépend tout de même de l'éducateur, tout dépend de l'enseignant. C'est-à-dire si l'enseignant a une espèce de feu, à conserver sa propre curiosité.
Quand j'étais petit, je pensais qu'en louchant trop, je pouvais me bloquer les yeux, que les cils sur mes joues avaient le pouvoir d'exaucer les vœux. Quand j'étais petit, je pensais que les adultes disaient toujours vrai. Et la nuit dans la voiture, je pensais que la lune me suivait. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose.
On disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas.
Quand j'étais petit, j'entendais un monstre qui vivait sous ma maison. Je pensais mourir dans la lave si je marchais pas sur le passage piéton. Qu'à l'époque, des photos en noir et blanc, les gens vivaient sans couleur. J'étais sûr qu'un bisou de ma mère pouvait soigner la douleur.
Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose.
On disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas.
Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. mais on est plus tard et je comprends pas.
Aujourd'hui, en grattant un ticket, je me vois millionnaire. Je me dis, tout ira mieux si je souris à la banquière.
Aujourd'hui, je me dis que si j'attends, quelqu'un fera ma vaisselle. Et que même si je vieillis, mes parents sont immortels.
Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose.
On disait,
tu comprendras plus tard.
Tu comprendras plus tard, c'est une chanson, c'est pas le titre hein, d'ailleurs, de Big Flo et Oli. Big Flo et Oli, c'est un peu les stars des cours de récré, pas seulement, mais ils sont très populaires auprès des enfants. Et dans cette chanson, donc, ils se remettent dans la peau des enfants qu'ils étaient et voilà, énoncent un certain nombre de questions. Et c'est vrai qu'en vous lisant Jean-Pierre Martin, moi, ce que je me suis demandé, c'est comment conserver sa curiosité, si c'est une raison de vivre, comment la préserver, comment la conserver, déjà au cours de l'enfance, en grandissant après 4 ans, et puis après, plus tard, toute la vie.
Comment la préserver? Bon, d'abord, c'est... comment, effectivement... comment dire, établir une sorte de continuité entre l'enfant qu'on a été, bon, et puis l'adulte qu'on devient. Lorsque Valérie, puisque Denis Cambouchner, je citais Valérie, Valérie est un grand penseur de la curiosité, il y a une phrase magnifique de Valérie qui dit « J'ai beau faire, tout m'intéresse ». Donc l'enfant, il l'a gardé, lui. Hein. Bon, et là, et effectivement, tu comprendras plus tard, enfin, c'est le plus tard, il est toujours remis. La curiosité, justement, dont parle cette chanson, et qui m'intéresse, c'est une curiosité qui déborde, qui est une curiosité hérétique, qui ne correspond pas à la curiosité que souvent l'école veut susciter, qui consiste à, en quelque sorte, à enlever de l'affect, enlever le désir, et puis se conformer à l'idée d'un savoir, d'un monde purement savant, qui théoriserait, qui s'assimilerait du savoir qu'on accumule, etc. Donc à l'opposé de Montaigne, évidemment, de Fénelon, de Rousseau, on en est toujours un petit peu là, tout de même, avec tous ces obstacles-là que l'adulte, comme l'enfant, doit surmonter, mais plus encore, parce que l'adulte en particulier, s'il s'est adonné au savoir, est confronté à de multiples obstacles, à savoir l'érudition fétichiste, la spécialisation outrancière, le snobisme mimétique, le kaléidoscope des modes théoriques, l'enfermement communautariste, parfois l'allégeance doctrinale. Donc, que d'obstacles pour garder en soi la curiosité.
Alors, des obstacles que vous connaissez bien, on va revenir aux enfants, mais je voudrais m'arrêter un peu sur votre parcours, Jean-Pierre Martin. Vous êtes vous-même professeur à l'université, donc le parcours académique et le savoir académique, tout de même, vous connaissez bien. Mais le livre s'ouvre sur votre jeunesse et un engagement politique, un engagement qui a pris une part énorme dans votre vie. Vous étiez un militant et vous dites « c'était en train de tuer ma curiosité ».
Oui, parce que ça ne veut pas dire que je n'avais pas de curiosité, mais ma curiosité était totalement rétrécie, obsessionnelle, puisque j'étais totalement ouvriériste. Donc ma curiosité se portait sur le monde ouvrier, ce qui n'est pas négligeable, je ne renie pas ça du tout. J'ai appris des choses, j'ai travaillé en usine 5 ans, donc je sais un peu des choses sur l'usine que d'autres qui ne sont pas passés par là, par le laminoir, par les barbages ou la métallurgie, ne connaissent pas. Je ne renie pas ça du tout. Mais ma curiosité ouvriériste, qui quand même était dépendante d'un endoctrinement, et d'un certain théoricisme marxiste-léniniste, c'était une façon, rétrécir, le mot est faible, enfin je veux dire, de tuer toutes mes curiosités culturelles. D'autres peut-être ont échappé à cela, mais bon, j'étais engagé corps et âme, avec tous les méfaits que cela entraîne, et bon, encore une fois, je renie pas du tout l'idéal qu'il y avait derrière ça, mais bon... Je voulais écrire, j'étais passionné de poésie, de cinéma, etc. Et tout cela était non seulement au second plan, mais quasiment mis aux oubliettes.
Par un engagement politique, après tout, bien des militants marxistes-léninistes ou des Mao de cette époque, derrière, sont devenus auteurs, écrivains. Donc c'est peut-être aussi une période qui est propre à la jeunesse, celle des passions. Et ces passions, finalement, elles nous permettent aussi d'aller jusqu'au bout d'une certaine curiosité, non?
On peut se dire ça a posteriori. Reste que certains ont été laminés plus que moi, que beaucoup ne se sont pas sortis de ce tunnel ou avec une vision obsessionnellement politique du monde. Hein, j'ai dit ouvriériste, mais aussi obsessionnellement politique.
On va revenir à l'école avec vous, Catherine Lécuyer, parce que je crois que l'idée que l'école tue la curiosité vous interpelle. Comment faire pour que éducation formelle ne rime pas, et ce n'est pas du tout toujours le cas hein, d'ailleurs, ne rime pas avec une perte de ses appétences propres à l'enfance?
Je pense que dire que l'école tue la créativité, je le vois comme un constat peut-être exagéré, là. C'est une condamnation sans nuance à l'instruction directe, je dirais, et au contenu. D'ailleurs, c'est une condamnation qui vient d'une personne qui a fait un TED, comme vous disiez avant, qui explique...
Conférence en public.
Qui une conférence, oui, qui explique les méfaits de la classe magistrale à travers d'une classe magistrale. Donc, en pédagogie, on fait souvent on met souvent en conflit la découverte pure, la découverte guidée, l'instruction directe. Donc, il y a plusieurs études qui nous rappellent que l'instruction directe, c'est pas suffisant, évidemment, là. C'est nécessaire, la découverte, l'émerveillement, etc. Mais sans contenu, on s'émerveille pas devant le vide, non, devant le néant. Donc c'est important d'avoir des contenus et je parlerai même des contextes, parce que l'apprentissage, c'est avant tout là, une quête de sens. Donc c'est très important le contexte. C'est en lien avec ce que vous disiez avant sur l'importance du professeur. Qui est la personne qui aide nos enfants à avoir un contexte de cette information, en fait, sur les réseaux sociaux, sur Internet? C'est pas des connaissances, c'est des informations. Donc qui peut faire en sorte que l'information soit connaissance pour les enfants et un contexte, mais c'est évidemment le professeur.
Denis Kambouchner, dans votre ouvrage, vous parlez de l'importance de la culture aujourd'hui. Alors, elle circule de manière extrêmement contrastée, pour le dire d'une façon un peu euphémisée, hein, dans notre société, avec de fortes différences sociales. En tout cas, pour les enfants, ça c'est vraiment établi. On recite le livre de Bernard Lahire. On va le recevoir la semaine prochaine. Mais cette culture, pourtant, elle est très importante puisque c'est elle qui construit, selon vous, et vous allez nous expliquer pourquoi, les chevaux sur lesquels d'autres savoirs vont pouvoir venir se greffer. Et se greffer encore, c'est comme une toile.
Tout, absolument tout, dans l'éducation est une question de proportion. De proportion entre des activités qui sont imposées sur une base raisonnable, qui doivent donc et il est très important que l'enfant perçoive la raison de ce qui lui est imposé, et puis des moments plus libres. De proportion entre l'approche de contenu qui sont relativement normées, hein, et puis l'évocation de beaucoup d'autres choses. Alors Catherine Lécuyer parle de contexte. Moi, je parle volontiers d'horizon. L'enseignant doit, d'une manière générale, montrer des horizons. Alors, parmi les choses réglées et obligatoires, il y a l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, du calcul, les apprentissages fondamentaux. Et aussi les acquisitions relatives à un certain nombre de connaissances élémentaires dans divers domaines. Bien entendu, il n'y a pas le déploiement de l'intérêt intellectuel de l'enfant et l'épanouissement de sa curiosité ne devient possible à un moment donné que si les apprentissages ont été bien calés.
Mais pourquoi avez-vous voulu parler de la culture et de son importance aujourd'hui, en 2019?
Oui.
Pourquoi cette défense de la culture?
Alors je crois qu'il y a un certain défaut d'ambition de l'école à cet égard, et d'une manière générale, une atmosphère de suspicion à l'égard des beautés, des chefs-d'œuvre les plus consacrés. On considère facilement dans notre société que, au fond, la culture c'est un peu chacun pour soi, ou bien que la haute culture, qu'il existe une haute culture qui serait l'apanage, le privilège de certains milieux sociaux, qui serait indissociable d'un certain jeu social. Et à cet égard, la sociologie critique, représentée notamment par Pierre Bourdieu, n'a pas rendu que de bons services, même si certains aspects des analyses produites sont tout à fait convaincants, notamment sur la reproduction sociale. Mais le point, c'est que la curiosité, effectivement, naturelle des enfants ne se maintient que si on lui présente des choses dont il reconnaît immédiatement et dont on lui fait aisément reconnaître le prix, la valeur intrinsèque. Hein. L'esprit curieux, c'est un esprit qui prend son temps, qui ne perd pas de temps, mais qui prend son temps au contact de ces objets, mais il faut que ces objets vaillent la peine, que ce soit des objets riches. Or, c'est sur ce plan qu'il y a sans doute un peu de déficit.
Mais si vous dites que nos savoirs peuvent prendre du sens, car ils sont connectés à d'autres savoirs, ne faut-il pas s'appuyer sur ce que les enfants savent déjà, car après tout, on n'est jamais totalement ignorant, on a son expérience du monde, pour leur parler de ce que vous appelez la haute culture, ce que Bourdieu a pu appeler la culture cultivée, si on désire le faire.
S'appuyer sur ce que les enfants savent déjà, je ne sais pas. Les introduire sur le mode d'une certaine interlocution, certainement. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de leur présenter les choses d'en haut en leur disant « Regardez, c'est excellent ». Non, il faut organiser une appropriation, et ce que Montaigne appelait une incorporation des choses de prix dans tous les domaines. Je veux dire, il ne s'agit pas simplement des grandes œuvres de l'esprit, des chefs-d'œuvre de la littérature, mais il s'agit aussi de toutes sortes de contenus scientifiques, de toutes sortes de techniques naturellement tout ce qui est intéressant dans le monde physique.
Catherine Lécuyer, je vous voyais réagir en écoutant Denis Kambouchner.
En fait, j'étais en train de me souvenir d'une citation de Montessori, qui avait, en fait, ce que vous venez de dire, c'est très montessorien, là, la proportion entre la discipline et l'activité spontanée. Montessori qui expliquait plusieurs fois, et qui a vraiment très peu été compris, je pense, qu'il n'y a pas de contradiction entre la transmission de la culture et l'intérêt spontané de l'enfant pour ce qui l'entoure. Puis il expliquait aussi que la créativité a toujours son fondement dans la réalité. Et donc, elle expliquait, elle répondait à Claparède, Édouard Claparède, qui disait qu'on devait, ce serait magnifique d'inventer un sérum contre la fatigue pour que les enfants puissent prêter d'attention en classe, et qu'il fallait comme vider le curriculum de son contenu. C'est très à la mode maintenant, peut-être moins en France. C'est un des pays qui se sauve du mouvement, je dirais, de vider
les classes de contenu. Ça veut dire le programme.
Ouais, hein. C'est ça. C'est de rendre les matières plus faciles, ou d'enlever les mathématiques, etc., ou de faire des... c'est ça, elle disait que, bon, c'est ce sérum-là, dont parlait Claparède, évidemment, d'une façon métaphorique, là, elle disait que c'est d'essayer de trouver une solution au problème de la liberté à travers des machines ou de la chimie, là, ce qui est très actuel maintenant. Et puis, elle disait que la tentation de diminuer l'exigence dans les classes et de ne pas transmettre cette culture-là qui est tellement importante. Elle appelait ça l'apologie du chaos et de l'ignorance.
Ouais, c'est des choses qu'on dit moins sur Montessori. Pourtant, vous utilisez, je ne sais pas, mais en tout cas, vous utilisez le terme naturel dans le sous-titre de votre ouvrage, Catherine Lécuyer. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir aussi une incompréhension autour de ce terme naturel, les lois naturelles? On pense à Céline Alvarez, on pense à tout ce qu'on dit aujourd'hui du cerveau. Alors, il y aurait un enfant de pure nature qui serait dans un désir d'apprentissage dont finalement le but, la finalité n'est pas toujours totalement exprimée ou totalement comprise aussi par le public et même les médias qui en parlent. En fait, si on devait définir les lois naturelles, ça serait très compliqué. Là, on a plusieurs philosophes qui ont plusieurs définitions. Moi, je m'en tiens à dire peut-être ce qui est propre à l'enfant. Non, donc je pense que c'est important ici d'expliquer que les enfants ont une nature qui est très différente de la nature des adultes. Donc, ils ont des nécessités, des besoins qui sont tout à fait différents. Là. Donc, il faut être à l'écoute, il faut observer. Puis je pense que au-delà d'une question philosophique, c'est une question aussi qu'on peut on peut voir si on observe les enfants.
Il faut observer les enfants, il faut observer sa propre curiosité. Jean-Pierre Martin, alors c'est plutôt dans la conclusion, mais ça m'a extrêmement intéressé. Vous parlez de morale, de la curiosité et une morale. À être qu'est-ce que vous entendez par là?
Oui, pourquoi pas morale? Enfin, j'emploie plus précisément le mot éthique, plus prudemment.
Oui, enfin, c'est une citation d'Amos Oz, l'écrivain israélien, qu'on trouve ce terme morale, et je lui ai emprunté, et c'est dans le dernier chapitre, donc, où vous parlez d'éthique, hein, de la curiosité.
Oui, alors plus précisément, oui, éthique que morale, mais enfin, pourquoi pas morale? En tout cas, c'est pas du tout une morale de l'injonction ou une éthique de l'injonction, parce que dire sois curieux, c'est absolument contre-productif. Et j'ai des propositions un peu ironiques sur ce sujet. Hein, c'est-à-dire, la curiosité est un désir. Voilà. Donc, on peut pas dire il faut être curieux. Cependant, pour revenir aux questions que nous évoquions, le professeur est inévitablement, enfin, se doit d'être un agitateur de curiosité. Mais pour qu'il soit un agitateur de curiosité, il faut lui-même qu'il soit parcouru constamment par cette passion. Cette passion qui est loin d'être triste, qui est une passion joyeuse, jubilatoire, qu'il communique cette jubilation. Or, je pense comme ça, incidemment, à une phrase de Rousseau qui nous donne à penser. Rousseau dit ceci: on est curieux qu'à proportion qu'on est instruit. Donc il établit un lien entre la culture déjà accumulée, en somme, et puis l'esprit de curiosité. Ça, je ne suis pas sûr, parce que moi, ce qui me frappe quand même, ce dont on n'a pas parlé depuis le début suffisamment, c'est l'incuriosité effrayante du monde dans lequel on vit. Ce monde, puisque vous vouliez tout à l'heure, vous avez dit que vous vouliez parler du numérique, ce monde qui nous offre des bibliothèques partout. Je parle de certains pays privilégiés, bien sûr, pas des pays de l'Est avant la chute du mur de Berlin. Bon, des bibliothèques partout. La culture est quand même à peu de frais. Enfin, je veux dire, tout le monde peut se cultiver, comme on dit. Or, nous assistons autour de nous à une espèce de bain d'indifférence, d'apathie. L'incuriosité me sidère. Elle est sidérante, elle est générale. Donc, il y a encore une autre question à se poser. Je crois que mon livre est né de ce sentiment-là, de ce sentiment que les gens, éduqués ou pas éduqués, posent très peu de questions.
France Culture, Être et Savoir, Louise Touret.
Nous parlons de la curiosité, dans Être et Savoir, une raison de vivre pour Jean-Pierre Martin, qui est notre invité, avec Denis Cambouchner, Quelque chose dans la tête, ça c'est un ouvrage plutôt sur la culture. Avec nous également Catherine Lécuyer, Cultiver l'émerveillement et la curiosité naturelle de nos enfants. Trois livres pour une réflexion qui est partie sur un grand sujet, l'incuriosité du monde qui serait aujourd'hui beaucoup plus présente. Alors, ça peut se discuter, mais dans un monde où beaucoup de savoirs sont à notre disposition, à la fois, on l'a dit tout au début de l'émission, grâce aux internets, aux réseaux, à la fois grâce à des équipements publics dont les pays riches peuvent disposer, enfin, qui sont plus ou moins bien répartis sur le territoire, mais il y a des bibliothèques, mais il y a des programmes éducatifs à la télévision. Finalement, ce n'est pas forcément vers les savoirs et la culture qu'on se tourne. Est-ce que ça veut dire que la curiosité s'étiole dans un monde qui serait, eh bien dites-moi Catherine Lécuyer, trop tourné vers la consommation, trop tourné vers le pur plaisir de l'instant présent, et en même temps ça pourrait aussi être de la curiosité.
Oui, en fait c'est question de mettre de l'ordre dans ces informations là, pour pouvoir parler de culture et de connaissance là. Et on revient toujours au rôle du professeur en fait, et de l'éducateur qui peut être le parent ou l'éducateur à l'école. On a déjà analysé il y a plusieurs années, il y a quelques années, 25 systèmes scolaires qui étaient considérés comme étant de grands succès partout dans le monde. Et une des conclusions, c'est une étude de McKinsey, là, c'est qu'un système éducatif n'est jamais mieux et meilleur que ses professeurs. Parce que les caractéristiques d'un professeur, d'un bon professeur, et c'est justement celui qui va donner l'antidote de l'incuriosité, c'est la sensibilité, l'intuition, la passion, la curiosité, l'émerveillement, etc. Et puis ça nous rappelle que l'éducation, c'est un enjeu d'abord et avant tout humain. C'est la technologie, c'est pas mauvais évidemment, ça a toujours sa place, là, mais ça ne va jamais prendre la place de mon professeur.
Est-ce que cette étude parle du temps dont disposent les professeurs pour parler à des élèves qui sont peut-être du coup, pas forcément trop nombreux dans les classes, parce qu'il faut pouvoir.
Non, c'est une étude à macro-économique là, disons, qui compare les pays. Donc, on rentre pas dans ce niveau de détail là, mais c'est évident que c'est d'abord et avant tout d'avoir cette attention personnalisée pour chaque étudiant, et aussi ça, c'est le professeur. Je parle tout le temps du contexte. Là, pour moi, c'est tellement important là, contextualiser l'information. Donc, je donne l'exemple, par exemple, d'un Japonais là, qui voit une image. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on a tellement de fake news. C'est parce que les gens ne sont pas capables de comprendre le contexte de l'information qu'ils voient. Si on voit, par exemple, 10 taureaux dans les rues de Pamplona sur une image, un Japonais ne comprend rien, dit « qu'est-ce qui se passe? » Non, si on est espagnol, on comprend c'est quoi l'image. Ou si on est français aussi, on comprend c'est quoi l'image. Donc, les enfants, les jeunes, présentement, c'est la génération... Comme disait Meg Wolitzer, qui a du beurre, mais ils n'ont pas de pain. Donc, il y a un sens ici, là, la quête de sens qui est tellement importante, qui a été perdue.
Et toutes ces références, évidemment, sont bien détaillées dans votre livre. Trop d'informations. Alors, si on parle d'Internet, on peut parler de sérendipité. Pouvoir trouver au hasard ça marche aussi dans la vie, hein, au hasard de ces pérégrinations, de nouveaux points d'accroche qui vont nous permettre de creuser. Est-ce que finalement, ça arrive vraiment, Jean-Pierre Martin? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne, la curiosité?
Oui, non, je sais pas sur ces sujets-là. On peut dire tout et son contraire. Je crois précisément que ce hasard, il est ouvert. Et il est libérateur, et il est inventif si le sujet qui se sert de ces instruments est lui-même, ouvert. Et libère son désir de savoir. Donc ça dépend vraiment du sujet. Or, les sujets sont formatés, comme très souvent, par un certain nombre de conformismes et de conformités, eh bien ce hasard se produit pas tant que ça, c'est-à-dire qu'il y a d'autant plus que la machine nous parle, nous dirige parfois ou même souvent. Donc, c'est un outil ambivalent. Je ne suis pas en train de dire que c'est Léviathan, que c'est infernal, etc. Non, ce n'est pas la machine infernale. Au contraire, je veux dire, c'est sans aucun doute, enfin, je veux dire, consulter très rapidement par Internet, même un article Wikipédia, etc. Enfin, on peut accéder à un savoir tout de suite, immédiatement. Donc, ça, c'est formidable. Sauf que, pour que ça produise une vraie curiosité au sens où je l'entends, du moins, bon, eh bien, il faut véritablement un sujet. Voilà. Et le sujet, c'est pas évident. L'ère de l'individu n'a pas forcément créé des sujets. C'est une ère formidable, mais voilà, un sujet est à venir.
Un sujet capable de sortir de sa bulle, puisqu'on parle de bulle hein, pour les réseaux sociaux et pour les internets. Elles sont organisées par des algorithmes hein, qui nous emmènent vers des sujets qui nous intéressent déjà. Ça a été largement décrit. Jean-Pierre Martin, dites-nous pourquoi, parce que c'est dans votre livre, pourquoi la curiosité nous maintient toute notre vie dans un état d'éveil, parce que c'est pas seulement la curiosité des enfants, on l'a dit, c'est une curiosité qui, à tous les âges, et même après, quand on travaille plus, quand on continue, est une sorte d'hygiène de vie pour vous.
Oui, hygiène de vie. Alors, j'aurais deux exemples très différents. Un qui concerne la pédagogie, ça m'a frappé vraiment que Alain Corbin raconte ceci, qu'il était, on lui a demandé de faire un cours sur la Chine au XXe siècle. C'était pas du tout sa spécialité, c'est pas du tout son sujet. Et rétrospectivement, il estime que c'est le meilleur cours de la vie, de sa vie, d'enseignant qu'il ait jamais fait. Voilà. Et le deuxième exemple, pour dire combien c'est une raison de vivre et combien ça maintient en vie, c'est une image extraordinaire. C'est Henri Michaud sur son lit d'hôpital, en train de mourir, et qui demande à l'infirmière un livre sur les plantes, un livre d'histoire naturelle. Voilà les deux exemples que je donnerais pour dire combien la curiosité est une énergie vital.
Merci beaucoup pour ces deux très beaux exemples. Merci à tous les trois. Et bien, dans un tout petit instant. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez la boxeuse Sarah Ouramoun ?
Non, mais je vais tout de suite chercher
nous sommes très curieux.
Sarah Ouramoun, champion de boxe multi-médaillée. Elle est aujourd'hui en charge de la mixité pour le comité olympique. Et elle s'est confiée cette semaine à Sophie Bobert pour sa leçon de choses.
Très tôt, j'ai eu envie de choisir mon destin et de surtout pas être fataliste et me dire « voilà, c'est comme ça, c'est foutu, tu pleures sur ton sort, c'est dur ». J'étais jeune, hein, donc l'idée, c'était de me dire où tu as envie d'aller et travaille pour y arriver. Quoi. J'étais consciente que rien n'allait arriver comme ça, qu'on n'allait pas me tenir par la main et m'emmener vers une autre vie plus...
C'est votre mère qui vous avait expliqué ça ?
Ma mère m'a fait prendre conscience très tôt qu'il n'y a que par le travail que je pourrais m'en sortir. Et c'est vrai que ce goût de l'effort, ça a été une valeur importante pour moi qui m'a suivie... Toute mon enfance et mon adolescence, et qui m'aide aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs ce que j'essaye de transmettre à mes enfants, mais aussi à tous les gens qui passent la porte de cette salle de boxe. La boxe, ça a été d'abord la découverte d'un lieu, cette salle à Aubervilliers, qui était magnifique, avec voilà, des belles fresques, deux grands rings. Et puis, ça a été la rencontre avec Saïd Benajem, qui gérait cette salle, qui lui avait été... en équipe de France, il a fait les Jeux de Barcelone, il a été boxeur professionnel à très haut niveau. Et c'est vrai que lui a su me parler de ce sport avec passion. Il me parlait de noblard, d'escrime des poings, et il a su me convaincre d'essayer. Voilà, j'ai fait une première séance de boxe éducative, j'ai adoré parce que il y avait une belle philosophie, une belle ambiance dans cette salle, une vraie solidarité, on s'entraînait en musique, voilà, il y avait de la collaboration et je m'amusais, je me dépensais, enfin voilà, j'avais l'impression que cette salle, c'était un peu notre deuxième maison à tous. Il y a des relations qui ont commencé à se créer, non seulement avec l'entraîneur, mais avec tous ceux qui s'entraînaient avec moi. Donc, c'est pas du tout pareil, quoi. Il y a beaucoup plus d'émotions, il y a beaucoup plus d'échanges.
Mais ça peut être violent, quand même, hein. Cruel, non ?
Non, c'est pas cruel. C'est pas plus cruel que la vie. Il y a des gens qui sont plus durs dans la vie que sur un ring.
Vous racontez dans votre livre qu'en 1992, vos petits frères et sœurs sont placés en famille d'accueil, mais que vous et votre grand frère Samir, vous devenez interne dans un collège privé, tout en devant régulièrement justifier de votre choix au tribunal de Bobigny. Quel souvenir en gardez-vous de ce tribunal et de ses justifications de vos choix de vie ?
Pas des bons souvenirs, parce que j'avais le sentiment de devoir me justifier sur le fait que je voulais maîtriser ma vie, c'est-à-dire que j'avais pas besoin de quelqu'un pour me dire ce qui était bon pour moi. À l'époque, j'étais complètement passionnée par la boxe et mes débuts de boxeuse, alors... Je faisais pas encore de combat parce que c'était pas autorisé pour les femmes à cette époque, mais je m'entraînais comme si j'allais devenir professionnelle. D'ailleurs, c'est ce qui m'a permis, je pense, de vite évoluer, c'est-à-dire de croire en moi et de me projeter comme ça sur les plus hauts podiums. Et c'est vrai que j'avais cette crainte qu'on m'en empêche, c'est-à-dire qu'on me dise « ben non, tu peux plus aller à l'entraînement ». C'est plus possible. Et donc finalement, c'était un peu la carotte pour moi. C'est-à-dire, je me disais, je vais leur montrer que je peux être une bonne élève, que voilà, je vais être aussi une bonne sportive et qu'il n'y aura que des points positifs. Et donc, on me laissera tranquille.
On ne va pas me placer dans une famille d'accueil.
On fera confiance. Non, et puis je suis quelqu'un de trop indépendante pour ça. Parce que déjà ado, je crois que je pensais tout savoir de la vie et je voulais tout maîtriser. Après, bon, on apprend en grandissant, hein, mais j'étais persuadée de comprendre comment tout le monde tournait, alors que c'était pas le cas. Mais c'est comme ça. Ça fait partie des passages compliqués de l'adolescence.
Mais est-ce que quelque part, Sarah Ouramoun, vous ne devez pas aussi votre vocation de sportive à votre mère qui vous emmenait toute petite voir des films de Jackie Chan à Barbès ?
Probablement. Ça a été un vrai modèle pour moi et aujourd'hui, elle est toujours sportive, toujours hyper dynamique et c'est très inspirant. Et c'est vrai que... Pour les enfants, c'est important d'avoir comme ça des modèles. On le voit bien, c'est compliqué, notamment pour les jeunes filles qui arrêtent de plus en plus tôt le sport. Et le fait d'avoir quand même une maman qui enfile des baskets et qui se bouge, ouais, ça donne envie et ça fait partie des valeurs. En tout cas, moi, que j'ai envie d'inculquer à mes deux filles.
Et le livre de Sarah Ouramoun, Mes combats de femmes, a été publié chez Robert Laffont. Et on remercie toute l'équipe d'Être et Savoir, Avril Ventura, notre chargée de production, Philippe Baudouin qui réalise cette émission et Laurie Vachon qui était à la prise de son aujourd'hui. On vous dit aussi que vous pouvez podcaster cette émission, la réécouter en ligne via par exemple l'appli de Radio France et vous pouvez aussi podcaster évidemment la leçon de choses de Sophie Bobert.